L'accent des autres vous accompagne une nouvelle fois. Voici, comme chaque semaine, l'actualité des médias francophones publics avec la Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, France Inter, RFI et la RTBF. Et on va commencer aujourd'hui au Québec avec vous, Benoît Audet, parce que le gouvernement a déposé un projet de loi destiné à renforcer la langue française.
Oui, et cette initiative ambitieuse, d'abord destinée au Québec, a des ramifications jusque sur la scène fédérale.
Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire avec vous, Nicolas Sûr. Le pays vit à l'heure des délestages électriques.
Oui, des coupures de courant de 6 heures chaque jour qui sont programmées en fonction des quartiers. Il s'agit de faire face à un déficit de production particulièrement important depuis un mois.
Les suites de la pandémie en Belgique d'abord, Jacques Cremers. Les différents gouvernements ont décidé de lever une série de restrictions étape par étape. C'est ce que de nombreux observateurs ont appelé le comité de concertation de la liberté.
Oui, rupture avec les restrictions, rupture avec l'extrême prudence. Mais si l'épidémie recule et si la vaccination s'accélère pour certains experts de la santé, ces décisions sont aussi un pari sur l'évolution positive de l'infection.
En Suisse, le certificat Covid fait débat. Seuls sont usage pour voyager semble faire l'unanimité, Pierre-Anne Chauffard.
Le document est promis pour fin juin et c'est vrai que les critiques fusent sur son potentiel rôle de sésame pour assister à un concert ou pénétrer dans un stade de foot.
Enfin, près d'un tiers des Français ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid, mais ce qui inquiète désormais la communauté médicale, Éric Delvaux, c'est le retard des vaccinations contre d'autres maladies.
Oui, toute cette dynamique anti-Covid a fini par éclipser les rappels de vaccins, par exemple contre la diphtérie, tétanos et polio. Un constat d'autant plus alarmant chez les publics vulnérables comme les transplantés.
Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue dans l'accent des autres. C'est la plus importante réforme de la charte de la langue française. Elle a été lancée cette semaine au Québec. Cette charte, qui vise à mieux protéger et promouvoir le français, avait été adoptée en 1977 ou 77 par le gouvernement souverainiste de René Lévesque. Mais de nombreux défenseurs du français trouvaient qu'elle n'avait plus assez de mordant pour freiner le recul du français face à l'anglais. Benoît, le Premier ministre François Legault a répondu à leur appel cette semaine.
Oui, ce projet de loi de plus de 100 pages contient de nombreuses mesures destinées à renforcer la défense de la langue française. On écoute le ministre responsable du dossier, Simon Jolin-Barrette.
Je pense que c'est une grande journée pour le Québec, et puis on va faire en sorte que la langue française redevienne la langue commune au Québec. Et je pense que c'est une avancée significative pour tous les Québécois aujourd'hui.
Voilà, le ministre Simon Jolin-Barrette. Alors Benoît, quels sont les objectifs de ce projet de loi?
Le gouvernement veut faire du français la langue commune du Québec, renforcer son statut dans toutes les sphères de la société. On veut aussi que l'État québécois soit exemplaire dans l'utilisation du français. Et enfin, on annonce la création d'un ministère de la langue française avec des pouvoirs élargis.
Et puis enfin, le gouvernement du Québec a aussi réservé, Benoît, une surprise de taille au gouvernement fédéral.
Oui, Québec veut inscrire dans la Constitution fédérale la reconnaissance de la nation québécoise et celle du français comme seule langue officielle du Québec. Cette question a déjà donné lieu à des déchirements épiques au Canada qui avaient presque mené à l'éclatement du pays. On en est encore loin, très loin, mais ça vous donne une idée de la portée de cette initiative.
Direction la Côte d'Ivoire cette fois, parce que depuis un mois, le pays fait face à d'importantes coupures de courant. La CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, met en place un programme de délestage drastique pour les grandes entreprises et depuis mardi dernier aussi pour les ménages, Nicolas.
Oui, des coupures de 6 heures chaque jour, entre 6 heures et midi ou midi et 18 heures, et qui tourneront d'une semaine à l'autre en fonction des quartiers. La direction de la CIE assure tout mettre en œuvre pour éviter les interruptions pendant les heures nocturnes. Les usagers seront prévenus par SMS et pourront s'informer via un site internet ou un numéro vert pour connaître la plage horaire qui concerne leur quartier et s'organiser en conséquence. Le dimanche, jour de moindre demande, n'est pas concerné pour l'instant par ces délestages. Pour tenter de combler un déficit de 100 à 200 mégawatts selon les heures de la journée, la compagnie nationale a aussi mis à contribution 180 grandes entreprises. Elles ne pourront compter que sur 48 heures d'alimentation électrique entre le lundi et le samedi, plus 16 heures le dimanche. Selon le ministre de l'Énergie, Thomas Camara, cette situation pourrait durer 2 mois. À l'origine de ce déficit de production électrique, des travaux retardés pour cause de Covid dans plusieurs centrales thermiques du pays. Autre raison invoquée, une saison sèche qui perdure, les pluies se font attendre et le niveau des lacs des barrages hydroélectriques est particulièrement bas. Par ailleurs, les fortes chaleurs entraînent une plus forte demande d'électricité. Les Ivoiriens en sont donc réduits à scruter le ciel en espérant les fortes pluies du mois de mai.
Voilà donc pour la situation en Côte d'Ivoire.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
En Belgique, on l'a appelé le Comité de concertation de la liberté. La dernière réunion des gouvernements a marqué un changement de cap dans la crise Covid, Jacques. La vaccination s'accélère et les ministres ont décidé de lever une série de restrictions.
Étape par étape, a tout de même nuancé le Premier ministre Alexander De Croo. Il n'empêche, les gouvernements ont donné des perspectives au secteur culturel événementiel avec des dates précises échelonnées de juin à septembre en fonction de l'évolution de la vaccination et des hospitalisations. Exemple, réouverture des cinémas dès le 9 juin, retour des grands festivals en plein air dès le 13 août. Tous les secteurs peuvent entrevoir une reprise plus nette de leurs activités, notamment les salles de sport, les mariages, les cultes et les restaurants qui pourront accueillir des clients à l'intérieur dès le 9 juin jusqu'à 22h.
Oui, cela dit, ces assouplissements ont créé tout de même des tensions au sein de l'équipe gouvernementale. Tous les experts n'y étaient pas favorables. Et d'ailleurs, Jacques, le ministre de la Santé, était absent à la conférence de presse. C'est une absence qui a été remarquée.
Oui, au lendemain de la réunion, Frank Vandenbroek a d'ailleurs minimisé les faits, affirmant que le plan était ambitieux. À juste titre, a-t-il dit, pas de démission à l'ordre du jour. Mais le ministre a rappelé qu'il était là pour défendre le secteur et l'intérêt des soins de santé.
Alors en Suisse, Pierre-Henri, l'assouplissement des mesures sanitaires se poursuit aussi. L'ouverture des terrasses des restaurants et l'ouverture des lieux culturels en avril dernier n'a pas provoqué de nouvelles flambées de cas.
Il y a même une lente baisse des nouvelles infections. C'est pourquoi le gouvernement envisage de passer à l'étape suivante le 31 mai. Ouverture complète des restaurants, mais avec 4 convives par table et port du masque quand on ne consomme pas, à condition toutefois que les cas ne remontent pas d'ici la fin du mois. Théâtre et cinéma pourront de leur côté doubler leur fréquentation de 50 à 100 spectateurs. En revanche, bars et discothèques, c'est toujours non. Pas d'assouplissement non plus pour les rencontres privées. 10 personnes à l'intérieur, 15 dehors. Or, en cause le risque élevé de contamination lors des fêtes de famille.
Voilà pour les assouplissements. Alors, du côté du gouvernement, on promet aussi un certificat Covid pour la fin juin. Il affirme que la formule sera simple et 100% compatible avec celle qui sera développée par l'Union européenne. Reste maintenant à déterminer, Pierre-Henri, les accès que ce passeport ouvrira.
Et c'est là, Olivier, que les choses se compliquent. Si une écrasante majorité paraît convaincue qu'on ne coupera pas à devoir le présenter pour monter dans un avion ou passer une frontière, eh bien son usage en Suisse même en fait tiquer plus d'un. Rien n'est encore décidé, mais beaucoup s'inquiètent. La fêtière des restaurateurs monte déjà aux barricades. Pas question d'un tel sésame pour entrer boire une bière ou manger un plat du jour. A priori, comme les restaurants vont rouvrir sans cette obligation, les cafetiers n'ont pas trop de soucis à se faire. C'est plus pour des lieux toujours fermés ou fortement restreints que la question va se poser.
Oui, là on peut penser aux grands événements sportifs et culturels.
Et pour ces deux secteurs sinistrés, la centriste Marianne Marais plaide pour cette formule qu'elle voit comme un moindre mal.
Socialement, ça ne peut pas fonctionner sans un outil. L'outil n'est pas magique, mais nous sommes en période de pandémie et je pense que c'est le seul outil. Le secteur de la culture en particulier, c'est un secteur exsangue. Les gens sont en mode survie et moi, en tout cas personnellement, tous les acteurs culturels que j'ai rencontrés saluent cet élément-là, même si personne s'en félicite. Nous sommes en période de pandémie, ça n'est pas agréable.
Désagréable en effet et éthiquement contestable dans la mesure où ce certificat crée une forme de discrimination. Sur le terrain politique, certains s'inquiètent d'une potentielle absence de débat démocratique sur cette question délicate. L'épidémiologiste Valérie Dacremont va plus loin et s'interroge sur la pertinence même de l'outil, du moins si la vaccination se poursuit au même rythme.
Dans le canton de Vaud, par exemple, fin juin, on aura 60% des gens minimum qui sont vaccinés. C'est ceux qui ont déjà pris rendez-vous, on sait qu'ils seront vaccinés. Donc 70, 80, on y est presque. Si on met encore les gens qui ont déjà fait l'infection, on y est. Donc le passeport n'a plus d'utilité.
Reste que le gouvernement, dans son plan de retour progressif à la normale, prévoit bien de maintenir des restrictions sanitaires pour ceux qui n'auront pas ce certificat Covid.
Oui, et en attendant ce certificat Covid, en Belgique, la formule que le gouvernement a choisie pour permettre d'assister aux grands événements culturels et sportifs de l'été, c'est, Jacques, un Covid Safe Ticket.
Oui, c'est un pass aux couleurs noir, jaune, rouge, exclusivement un document apportant la preuve d'une vaccination ou d'un test négatif et dont l'utilisation est aussi limitée dans le temps. Il sera utilisé à partir du 1er juillet uniquement pour des événements tests en extérieur et à partir de la mi-août, il sera généralisé et accessible au grand public pour des événements de grande ampleur comme des festivals ou le Grand Prix de Formule 1 de Spa-Francorchamps.
Et la tendance est la même en France. Les terrasses des bars et restaurants vont pouvoir ouvrir la semaine prochaine à condition de respecter certaines jauges. Alors qu'il est près de 20 millions de Français ont reçu leur première injection du vaccin. Mais il y a un contre-effet à cette longue séquence sanitaire, c'est la régression de la vaccination contre d'autres maladies. Et cette situation inquiète la communauté médicale française. Reportage Véronique Julia.
On le sait, durant le premier confinement, il y a eu des retards de vaccination pour les nourrissons. Ce retard a été comblé, les parents sont retournés chez le pédiatre faire les vaccins obligatoires. Ce qui inquiète en revanche, c'est toute la population âgée de plus de 2 ans. Pour tous les rappels, les vaccins de rattrapage, le recul est de plus de 10%. C'est d'autant plus grave que la couverture vaccinale en France n'était déjà pas au plus haut. Moins de 35% des adultes sont à jour, par exemple, de leur vaccin diphtérie tétanos polio, qui exige des rappels à 25, 45 et 65 ans. Le constat de ces faibles le taux de vaccination est d'autant plus alarmant chez les publics vulnérables comme les transplantés, les immunodéprimés ou les asthmatiques, explique le professeur Chantal Raherisson-Semgène. Elle préside la Société de pneumologie de langue française.
Pour la vaccination contre le pneumocoque, 24% de couverture vaccinale chez les asthmatiques, 19% chez les asthmatiques légers, 42% chez les asthmatiques sévères. Donc on voit bien que même quand on a une maladie chronique, c'est ce qu'on voit nous dans le quotidien, il y a des patients bien sûr qui ont leur vaccination à jour, et puis d'autres qui découvrent à qui on n'a jamais parlé de vaccination.
Même constat pour l'hépatite B ou pour le vaccin contre le papillomavirus, dont la couverture reste très insuffisante en France. Un regret des médecins et des associations, les carnets de santé souvent perdus au fil des ans. Et un rappel, coqueluche, rougeole, tuberculose, hépatite, ce sont des maladies qui peuvent tuer.
Voilà pour ce reportage de Véronique Julia pour France Inter. Merci à tous les partenaires. C'était l'actualité des médias francophones publics avec Radio-Canada, RFI, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. On se retrouve, si vous le souhaitez, bien sûr, comme d'habitude, la semaine prochaine.